Chapitre 21. Ce matin-là, le gros Nestor, contrairement à son habitude, négligea de heurter à la porte de Procas en proférant des menaces. Il avait reçu la visite de Barbouillet, qui venait de lui apprendre une chose grave. Besombe avait été arrêté et conduit au commissariat de la rue Sarrette. « C'est la police qui se venge !» grogna le gros Nestor. « Peut-être, fit Barbouillet. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Besombe est accusé d'escroquerie. Le père Chevassu a déposé une plainte. Oh, des plaintes. Il y en a plusieurs à ce qu'on dit. Bah, ce Besombe ne valait pas cher. Bah, si, bah, il nous a quand même rendu un fier service. Barouillet eut un geste vague. Oui, tout de même, les preuves qui nous manquaient, il nous les a fournies. Qui sait? Quoi, vous doutez? Besorbe exagérait tout, un vaniteux qui cherchait qu'à se faire valoir. En tout cas, qu'il ait exagéré ou non, ce qui est certain, c'est que c'est un malhonnête homme. Il a profité de l'affaire pour escroquer plusieurs commerçants du quartier, et il est fort regrettable que nous l'ayons fréquenté. Enfin, nous avons été ses amis. On voyait que nous et lui, si on allait supposer... Voyons, monsieur Barouillet, on vous connaît dans tout Montrouge. Nous avons un commerce, une situation. Nous devons rien à personne. Quand les garçons de banque viennent chez nous, ils se laissent jamais de fiche. Ben, je dis pas, mais les gens sont si méchants. Bon, allez, nous occupons pas de cela. Que Besombe se débrouille. Bon, on nous citera peut-être comme témoins. Eh bien, nous dirons ce que nous savons. On pourra tout de même pas nous coffrer parce que nous avons fréquenté un escroc. C'est des choses qui arrivent. On fait la connaissance d'un homme, on le croit honnête, et on apprend plus tard que c'est une fripouille. On n'est pas compromis pour ça. Besombe nous a trompés, voilà tout, mais on ne montre pas de l'idée qu'il était sincère quand il pistelle sa tire. Oui, mais à quoi cela nous a-t-il avancé? Oh, monsieur Barouillet, sauf le respect que je vous dois, vous nous avez plaqués et vous avez eu tort. Non, non, mon ami, je n'ai pas eu tort. J'avais compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Notre homme, pour une raison que j'ignore, dispose sans doute de grandes protections, puisque malgré toutes les preuves accumulées contre lui, il est toujours en liberté. Mon opinion, ai-je besoin de vous le dire, n'a pas varié. Je le crois coupable d'un crime, peut-être de plusieurs, mais tant qu'on ne prendra pas sur le fait... Pour le prendre sur le fait, comme vous dites, il faut le surveiller. Les pieds, c'est ce que je fais chaque jour, ou plutôt chaque soir. Ordinairement, il sautait, il sortait que pour aller chercher son dîner. Et une fois rentré, il ne mettait plus les pieds dehors. Eh bien, hier, il est sorti vers minuit. Je l'ai entendu ouvrir sa porte. Je me suis mis à la fenêtre et j'ai vu qu'il se dirigeait du côté de l'église de Montrouge. Mais quand je suis descendu, il était déjà loin. Vous êtes sûr de l'avoir vu sortir? Oh, je suis sûr que vous êtes là devant moi. Je l'ai guetté. Car moi, j'ai de la patience, et quand je m'occupe d'une affaire, je vais jusqu'au bout. Ouais, je l'ai guetté, et je l'ai vu rentrer. Il pouvait être environ 2 heures du matin, mais d'où venait-il? Croyez-vous que c'est naturel, ces sorties-là? Un de ces jours, nous allons encore apprendre que quelqu'un a été assassiné, et on n'en parlera plus. « Oh, nom de Dieu, je le passerai le satire ou je veux perdre mon nom. À partir de ce soir, je vais encore me tenir en faction. »« Mais malheureux, vous ne pouvez pas veiller toutes les nuits. »« Je dormirai le jour, mon père me remplacera à l'étal, mais il faudra bien que j'aboutisse. »« J'admire votre énergie et surtout votre persévérance. »« Mais je crois que vous en serez pour votre peine. » Nous verrons, monsieur Barouillet, nous verrons. Jusqu'alors, nous ignorions que le satyre sortait la nuit. Maintenant, nous tâcherons de savoir à quoi il emploie son temps. Pas quelque chose de propre, bien sûr. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur moi. Le gros Nestor éclata de rire. Oh, fit-il, en frappant familièrement sur l'épaule de Barouillet. Vous vous ravisez, alors on pourrait s'entendre et partager la besogne. Nous filerions le particulier à tour de rôle. Ce serait avec plaisir, mais nous allons avoir les élections municipales et vous comprenez, toutes mes soirées sont prises. Je fais campagne pour Malabo et... Tiens, je croyais que vous souteniez le conseiller sortant. Non, Bellerive n'a pas tenu ses engagements. Il en a pris trop à son aise avec les électeurs. Il faut un homme qui s'occupe activement du quartier. Ah, si ça avait été dans un autre moment, je vous aurais secondé de grand cœur, mais vous le voyez, c'est impossible. Alors, je travaillerai seul et m'efforcerai de réussir. Ça arrivera peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Et je pourrais dire que moi aussi, je prends les intérêts du quartier. On vous en sera reconnaissant. Les deux hommes se serrèrent la main et se séparèrent. Le gros Nestor sortit sur le seuil de sa porte, où il demeura immobile, imposant et superbe. À ceux qui passaient, il faisait un petit signe de tête ou envoyait un salut de la main. Le rôle qu'il avait assumé le posait dans l'avenue du Maine et il prenait comme besogne des airs mystérieux quand on lui parlait de l'affaire. Tout le monde était persuadé qu'il savait quelque chose, mais ne voulait encore rien dire. Cependant, à l'heure de l'apéritif, dans le petit café de la rue Liancourt, il fit quelques confidences à deux ou trois amis qui s'empressèrent d'aller répéter partout que Nestor allait bientôt étonner tout le monde, et ceux qui jusqu'alors l'avaient considéré comme un parfait imbécile commencèrent à le prendre au sérieux. C'était lui, en somme, qui entretenait dans le quartier la haine de tous contre Procas, haine qui se serait peut-être atténuée puis apaisée, comme s'apaisent les grandes fureurs populaires. On continuait à épier le malheureux savant et à lui faire la conduite quand il allait chercher quelques maigres provisions qu'il n'obtenait pas toujours, car la plupart des commerçants avaient fait alliance avec la foule. Il était souvent obligé de descendre jusqu'à la rue de la Gaîté et la rue d'Odessa, où il trouvait fatalement de nouveaux ennemis qui faisaient chorus avec les autres. Il est juste de reconnaître que depuis quelques jours, Procas, qui était sûr de se venger de tous ces gens, avait une attitude provocante. Autrefois, il fuyait comme une pauvre bête que l'on poursuit d'un coup de caillou, mais à présent, il tenait tête à la bande hurlante qui l'escortait. Souvent, il s'arrêtait, croisait les bras et regardait fixement la foule. Il était certain que cela allait mal finir, qu'un jour ou l'autre, on l'attaquerait encore, car il devenait de plus en plus odieux. La veille, on avait cloué une feuille à sa porte, et ce soir-là, il trouva un autre chiffon de papier sur lequel était grossièrement représentée une guillotine avec ces mots « Demeler t'attend ». Il sourit et rentra chez lui. Il paraissait très calme. Il mangea une croûte de pain et un peu de charcuterie, et se jeta tout habillé sur son divan, après avoir mis la petite aiguille de son réveil sur minuit. Quand la sonnerie grêle se mit à vibrer, Procas se leva. Il fit quelques pas dans la pièce, s'approcha de la fenêtre, écouta, puis jetant son manteau sur ses épaules, demeura quelques instants immobile. Enfin, il mit son chapeau, dont il rabattit les bords, prit son bocal et sortit doucement après avoir éteint sa lampe. À peine était-il dehors qu'il entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit une ombre qui rasait les murs. À la lueur d'un bec de gaz, il reconnut son ennemi et s'ingénia à le dépister. Au lieu de suivre l'avenue du Maine, il s'enfonça dans le passage de la tour de Vanves, où l'obscurité était presque complète, tourna rapidement dans la rue Asseline et se blottit sous un porche. Le gros Nestor, car c'était lui, s'arrêta, indécis, puis, ne voyant personne, parcourut la rue dans toute sa longueur. Il passa près de Procas sans l'apercevoir, revint dans le passage et s'avança jusqu'à l'avenue, mais déjà Procas par la rue Didot, gagner la rue d'Alésia, l'avenue d'Orléans, puis la rue Beaunier, qui débouche en face de l'entrée principale du réservoir de Montsouris. Il s'engagea aussitôt dans l'avenue Rey et s'arrêta devant une petite porte de fer encastrée dans la muraille. La nuit était noire, un peu brumeuse. Les feux des réverbères semblaient miroiter dans de l'eau trouble. Posant sur le sol son bocal, Procas, au moyen du crochet qu'il avait façonné la veille, se mit à fourrager doucement dans la serrure. Il eut enfin un petit déclic et la porte s'ouvrit sans bruit. Il était dans la place. Une effarante tranquillité régnait autour de lui. Il monta quelques marches et atteignit la grande plateforme de gazon qui recouvre le réservoir. S'agenouillant sur l'herbe humide, il écouta un instant, puis se releva et, courbé en deux, se glissa vers l'édicule vitré qu'il apercevait vaguement devant lui. Il tremblait de tous ses membres et sentait son cœur battre à coups précipités dans sa poitrine. L'horrible résolution qu'il avait prise faiblissait de minute en minute, et peut-être allait-il revenir en arrière quand l'aboiement lointain d'un chien le fit tressaillir. C'est ainsi qu'aboyait le pauvre Mamie quand il sentait derrière lui la foule hostile qui poursuivait son maître. Cet aboiement avait quelque chose de plaintif et montait dans la nuit à intervalles réguliers. Procas eut un tressaillement. En quelques secondes, ses souvenirs se succédèrent. Il revit la bande hurlante de ses ennemis, leurs figures farouches, leurs gestes de menace. Il crut sentir sur son épaule la poigne brutale du garçon boucher, entendre Mamie qui grognait à ses côtés, Mamie dont il devait bientôt retrouver la dépouille sanglante le long du ruisseau. Et cela étouffa son rêve de pardon. D'un pas furtif, il continua d'avancer, serrant contre lui son bocal. « Pourquoi ai-je pitié d'eux ?» songeait-il. Il était arrivé devant le kiosque où débouchent les doubles siphons de la vallée du Loing. Il n'eut qu'à crocheter une porte vitrée qui céda facilement. Parvenu près d'une rampe de fer, il vit un trou noir où l'eau entrait en bouillonnant. Ses mains qui tenaient le bocal étaient devenues froides, et au moment d'accomplir le geste fatal qui allait semer la mort, ses jambes vacillèrent. Pourtant, il se ressaisit, étendit le bras, hésita encore quelques secondes, puis d'un geste brusque lança le poison. Il eut un petit bruissement, quelque chose comme un léger susurrement de feuillage, et ce fut tout. Procas s'était vengé, l'irréparable était accompli. Un frisson de douleur et de volupté parcourut tout son être, et il s'enfuit en proie à une terreur folle, croyant voir autour de lui des êtres aux bras décharnés, pitoyables et suppliants. Il retrouva difficilement la petite porte par laquelle il était entré, la referma sans bruit, et se lança dans les rues ténébreuses, marchant d'un pas inégal et lourd. Il avait conservé son bocal. Il le jeta dans un terrain vague où il se brisa. Toute la nuit, il erra comme un chien perdu et ne rentra chez lui qu'à l'aube. Au moment où il mettait sa clé dans la serrure, un homme surgit tout à coup. « Ah, canaille, nous aurons ta peau !» Procas se retourna et reconnut le garçon boucher. Il le regarda fixement, eut un sourire ironique et referma sa porte. Chapitre 22. Le quartier s'éveillait. Procas, qui, malgré sa lassitude, n'avait pas envie de dormir, s'était assis sur son divan, la tête entre les mains. À présent qu'un peu de netteté se faisait dans son esprit, il songeait. Ce qu'il avait fait était horrible, il s'en rendait compte. Demain après-demain au plus tard, les ambulances urbaines fileraient par les rues, les hôpitaux s'empliraient de moribonds, et tous ces gens qui maintenant allaient gaiement à leur travail seraient bientôt terrassés par un mal étrange dont on chercherait en vain la cause. La mort surprendrait les hommes, les femmes et les enfants. Les enfants. À cette pensée, Procas eut un serrement de cœur. Pour se venger, il tuerait les innocents, de pauvres petits êtres qui ne savaient pas, qui ne comprenaient rien encore aux souffrances humaines. Et pourtant, n'en avait-il pas torturé eux aussi? N'avait-il point poussé sur son passage des cris de haine, des clameurs farouches? Ne faisait-il point partie de la multitude barbare qui le harcelait chaque jour? Un d'entre eux avait-il eu seulement un geste, un mot de pitié pour lui? Procas, on le voit, à force de méditer sa vengeance, de la ressasser, en était arrivé à la trouver juste, presque naturelle. Il est vrai que la souffrance et les persécutions dont il était l'objet avaient peu à peu, comme nous l'avons expliqué, troublé sa conscience. Il n'était plus un être normal. Pour le moment, il ne voyait qu'une chose. Il allait, à son tour, lire sur les visages la douleur et l'angoisse. Quand il se sentait envahir par un sentiment de pitié, il se rappelait aussitôt tout ce qu'on lui avait fait, et la colère concentrée dans son cœur entrait de nouveau en ébullition. Il entretenait autour de lui une ambiance de souvenirs, et il évitait de s'interroger de peur d'avoir à se condamner. Quand vint le soir, il sortit. Comme d'habitude, ce fut autour de lui la même horde déchaînée, gouailleuse et mauvaise. Il semblait insensible aux injures. Ce n'était plus un homme irritable et furieux, comme devant, mais un être inconscient, comme en état d'hypnose pour qui le monde extérieur n'existe plus. « Il est joliment sage ce soir !» s'écria une femme qui suivait la foule en tenant son petit par la main. « Bon, ne vous y fiez pas, » dit un autre, « n'approchez pas trop, prenez garde !» Cependant, la nouvelle attitude de l'homme à la figure bleue étonnait, et l'on se demandait si ce calme était naturel. Certains eussent voulu le voir regimber, il l'agaçait, le bousculait même, comme ces dompteurs qui fouillent un fauve pour le faire rugir. Procas était toujours impassible. Il se disait, à quoi bon? Demain, ils ne s'occuperont plus de moi, car ils auront un ennemi autrement redoutable. Et à cette pensée, une lueur mauvaise passait dans ses yeux. Il put ce soir-là acheter quelques provisions. Quand il rentra chez lui, il remarqua que son escorte était toujours aussi nombreuse. Il s'enferma, mangea lentement à la lueur de sa petite lampe à pétrole, puis comme il sentait bien qu'il ne pourrait pas dormir, prit un livre de bactériologie et s'absorba dans la lecture d'un chapitre pris au hasard. Par instant, le roulement d'une voiture, un bruit de pas pressés, un murmure de voix le faisait tressaillir. Il écoutait, puis se replongeait aussitôt dans son livre en murmurant « Non, pas encore, c'est trop tôt ». Il calculait que l'eau du réservoir ne s'était pas encore répandue dans les canalisations. Il fallait au moins 48 heures pour que la contamination fût complète. Et il suivait en imagination le développement de ces bacilles dont les colonies devaient se multiplier à l'infini. Il se les représentait comme il les voyait réellement au microscope grouillant sur la plaque de verre. Soudain, sa tête se pencha en avant. Il dormait. Et alors, sa pensée transformée, dénaturée, amplifiée par le rêve, lui fit voir des bacilles énormes, monstrueusement grossies, avec des antennes gigantesques, des tentacules de pieuvre, des yeux étincelants. Tout cela se mouvait, se tordait en convulsions lentes, et il sentait sur son corps le glissement gluant de ces monstres qui peu à peu l'enserraient, lui comprimaient la poitrine, l'étouffaient. Il poussa un cri et se réveilla. Il alla ouvrir la fenêtre. Un homme était debout près de sa porte. C'était le gros Nestor qui le guettait. Procas le reconnut et au lieu de refermer la fenêtre, demeura accoudé à la manne d'appui. Le garçon boucher s'esquiva et alla se cacher plus loin. Peut-être croyait-il que son ennemi allait sortir et qu'il jetait un coup d'œil dans la rue avant de quitter sa maison. S'il y a une justice, pensa Procas, c'est celui-là qui devrait être frappé le premier. Et il se mit à marcher, car il craignait de s'endormir et d'avoir encore quelque affreux cauchemar. Cependant, la fatigue finit par le terrasser, et il s'abattit sur son divan, où un sommeil de brute ne tarda pas à s'emparer de lui. Au matin, il s'éveilla avec une affreuse migraine. Il se trempa le front dans une cuvette, et comme l'eau avait rejailli sur son visage, il s'essuya avec soin, craignant que cette eau ne fût déjà contaminée. Maintenant, il n'oserait plus boire. Ne fallait-il pas qu'il pût jouir de son triomphe, voire souffrir ce qui l'avait poussé à commettre son acte? D'ordinaire, il ne sortait jamais le matin, mais ce jour-là, il alla acheter les journaux. Une bande de gamins l'assaillit dès qu'il eut mis le pied dans la rue, et les commères qui causaient sur le pas des portes l'accablèrent d'injures, mais Procas allait droit devant lui, la tête penchée en avant, les yeux mi-clos, comme un homme qui rêve. Ce calme persistant, qui contrastait avec son état de fureur habituel, ne manqua pas de surprendre. Roland conclut qu'il ne se sentait pas la conscience tranquille et qu'il s'attendait sans doute à être arrêté. Pendant qu'on l'observait à la dérobée, il revenait en lisant un journal, ce qui parut singulier. Que pouvait-il bien chercher dans les journaux? Ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de jeter les yeux sur les feuilles du matin s'empressèrent de se rendre au kiosque voisin et séance tenante se mirent à parcourir les colonnes de première, de deuxième et de troisième page, espérant y découvrir une indication, mais ils en furent pour leur peine. Pourtant, un vieux rentier décoré qui s'était mêlé au groupe fit remarquer un fait divers qui n'avait point frappé l'esprit des curieux. Il était question, dans ce fait divers, d'une femme qui, la veille, avait été étranglée dans un hôtel borgne de la rue de la Tombissoire. Elle était rentrée vers minuit en compagnie d'un individu qui cherchait à dissimuler son visage et qui avait disparu avant l'aube. Ce fut alors, pour les gens rassemblés autour du kiosque, comme si un voile se déchirait devant eux. « Parbleu !» dit quelqu'un. « Voilà ce qu'il cherchait dans le journal !»« Bien sûr !» dit un autre. « C'est lui, il n'y a pas d'erreur. Depuis quelques jours, il sortait le soir. Où allait-il »« Vous verrez !» dit le vieux rentier, tout fier d'avoir fait preuve de sagacité. « Vous verrez que ce crime-là restera impuni comme les autres. Oh, il est habile, le gaillard. Il n'en est pas à son coup d'essai. » Et toute la journée, le crime de la rue de la Tombissoire fit l'objet des conversations. Le gros Nestor écumait l'orage. « Ben, je l'ai manqué avant-hier, disait-il. Je le suivais, mais il m'a échappé. Oh, si j'avais pu lui emboîter le pas, ça y était, je l'avais. Sûr que c'est lui qui a fait le coup. » Personne n'en doutait. Quand les journaux du soir firent la lumière sur ce drame, l'assassin avait été arrêté. C'était un nommé Mohamed Ben Aga, manœuvre dans une usine du boulevard de la gare. On avait trouvé sur lui la montre-bracelet de sa victime et il avait fait des aveux. Ce fut une consternation générale, mais on n'en demeura pas moins persuadé que le satyre ne valait pas mieux que ce Mohamed et qu'un jour ou l'autre on finirait bien par le prendre en flagrant délit. Chapitre 23. Procas attendait toujours. Il ne se souciait plus de la foule qui grondait sur son passage. Une idée l'obsédait, ce bacille sur lequel il avait compté, dont la nocivité lui avait paru évidente. Aurait-il perdu de ses propriétés quand il s'était trouvé en contact avec une immense étendue d'eau? Le réservoir, il le savait, contenait avec sa réserve environ 200 000 mètres cubes. Est-ce que cette masse ne renfermait pas un élément qu'il n'avait point prévu ? Non, pourtant, son bacille devait anéantir tous les autres, car les expériences qu'il avait faites sur 5 ou 10 litres d'eau lui avaient suffisamment prouvé la virulence et la combativité de ces colonies. Elle devait être en train de se développer, mais n'était pas encore parvenue dans les canalisations. Parfois, un remords le prenait, et il souhaitait presque de voir échouer sa tentative, mais quand il retrouvait devant lui les regards de haine de ses ennemis, qu'il entendait leurs imprécations, leurs injures, il sentait s'évanouir sa pitié. Certes, il n'entendait pas louir longtemps de son triomphe, car la vie lui pesait comme un fardeau. Une fois sa vengeance accomplie, il disparaîtrait. Dans l'après-midi, il sortit. Il remarqua qu'on le regardait, mais sans colère, et crut même lire sur certains visages une sorte de compassion. Sur l'avenue du Maine, au coin du passage de la Tour de Vanves, des gens causaient d'un air mystérieux. Quand il passa, ils ne l'accueillirent point par ses habituelles clameurs qui autrefois le rendaient fou furieux. Il eût voulu cependant qu'on l'injuriât, qu'on le frappât même. Cela eût entretenu dans son cœur la colère qu'il sentait peu à peu s'apaiser. Il rentra chez lui, ouvrit sa fenêtre, regarda sur l'avenue. Ordinairement, dès qu'il paraissait, c'était des cris farouches, des gestes de menace. Aujourd'hui, rien, le silence. Toute la journée, il demeura prostré devant sa table de travail, en proie à une tristesse noire. Ainsi, au moment même où il l'avait condamné à mort, la foule s'humanisait, et il cherchait en vain la cause de cet apaisement. Il finit par se persuader que ce calme n'était qu'apparent et que l'on méditait encore quelque chose contre lui. Oh, cela s'était déjà produit. Il avait cru souvent retrouver un peu de tranquillité, et le lendemain, il s'était vu de nouveau assailli par une bande de furieux. La nuit était venue, et il demeurait devant sa table, sans même songer à allumer sa lampe, quand on frappa à la porte. Il tressaillit, qui donc pouvait venir chez lui ? Il hésita un instant, puis fit de la lumière. On l'appelait maintenant « Monsieur, monsieur !» Il se décida à aller ouvrir et se trouva en face de deux hommes, mais recula en reconnaissant l'un d'eux, ce garçon boucher qui avait été pour lui un tortionnaire, un bourreau. « Que me voulez-vous » s'écria-t-il. « Monsieur, répondit le gros Nestor, nous voulons vous parler. »« Me parler ? Mais qu'avez-vous à me dire ? Vous venez probablement pour m'assassiner, misérable !»« Calmez-vous, dit le second visiteur, qui n'était autre que Rabouillet. Nous venons pour éclaircir un malentendu. » La phrase était peut-être mal choisie, mais on sait que Babouillet, dont la tête était bourrée de clichés électoraux, employait volontiers des termes de réunion publique. « Oui, reprit-il, un malentendu, un regrettable malentendu. » Procas avait reculé. « Entrez, dit-il, comprenant qu'il ne pourrait tenir tête à ces deux hommes. » Il pénétra dans son laboratoire, ils le suivirent. « Monsieur, dit Barouillet, nous avons des excuses à vous faire. »« Oui, parfaitement, des excuses, appuya le grand Nestor en s'inclinant gauchement. « Tout le monde peut se tromper, c'est pas ?»« Et nous nous sommes trompés, grossièrement trompés, appuya Barouillet. Tout cela aussi, c'est la faute de l'individu, qui a maintenant maille à partir avec la justice. Il prétendait savoir. Il nous a pour ainsi dire convaincus. Nous l'avons cru, car ce qu'il disait était si précis et concordait si bien avec les faits qu'il était impossible de ne pas vous accuser. Procas ne comprenait toujours pas. Il était prêt de croire à une mystification et regardait avec inquiétude ces deux hommes, dont l'un était son plus mortel ennemi, celui qui avait à maintes reprises déchaîné contre lui la colère de la foule. Mais expliquez-vous, dit-il, quels sont les faits dont vous parlez ?
Ben vous le savez bien, répondit Barouillet.
Tout ce que je sais, c'est que je suis un objet d'horreur, et qu'au lieu de me plaindre, vous vous êtes tous acharnés contre moi. Vous m'avez injurié, frappé. Vous n'avez plus au monde qu'un ami, un chien, une pauvre bête à demi infirme, et vous l'avez tué. Pourquoi ? Que vous avais-je fait ? Nous avons eu bien des torts envers vous. Je le reconnais. Mais votre façon de vivre, vos mystérieux travaux nocturnes, tout cela nous avait paru louche, et le jour où le petit Boris a disparu, nous avons cru. Qu'avez-vous cru ? Que vous l'aviez tué. Mais c'est horrible ! Ainsi vous avez pu me croire coupable d'un meurtre, moi ? Le gros Nestor et Barouillet courbèrent la tête sans répondre. Ils avaient maintenant conscience de l'infamie de leur conduite et ne trouvaient plus rien à dire. « Voyons, reprit Procas, parlez. Pourquoi venez-vous aujourd'hui me présenter des excuses, à moi que vous considérez peut-être encore comme un assassin ?»« Non, balbutia Barouillet, nous savons maintenant que vous n'êtes pas coupable. » L'enfant parut. Il avait été enlevé à la fête du Lion de Belfort par des saltimbanques. Mais il est parvenu à leur échapper, et hier, des agents l'ont ramené chez lui. Vous comprenez à présent pourquoi nous sommes ici ? Nous sommes d'honnêtes gens, et nous savons reconnaître nos torts. On nous avait monté la tête, et puis tout vous accusait. On avait relevé les traces de sang dans la petite cour de votre maison. Et l'enfant jouait devant votre porte, quelques instants avant sa disparition. Mettez-vous à notre place. Qu'auriez-vous pensé ? Procas s'était assis, la tête entre les mains. Il sanglotait. Ainsi, on l'avait pris pour un assassin, et il ne s'en doutait pas. Il croyait que c'était sa seule laideur qui ameutait la foule contre lui. S'il avait su, pourquoi aussi ne lui avait-on rien dit ? Ah, mais il comprenait tout maintenant, la visite du commissaire, la perquisition, les hurlements de rage qui s'élevaient à son approche, la fureur de ces gens qui le croyaient coupable. « Monsieur, dit le gros Nestor, en lui frappant doucement sur l'épaule, vous crapassez pas. Maintenant tout est fini. On sait que vous êtes un brave homme. Vous n'avez plus d'ennemis, je vous assure. On est déjà renseigné dans le quartier, et on vous plaint. » Procas n'osait lever la tête, regarder cet homme qui lui parlait, cet ennemi qu'il exécrait naguère et qui venait aujourd'hui s'excuser, qui prononçait enfin des paroles de pitié qu'il avait attendues en vain et qui l'eussent peut-être encouragé à vivre. Et il songeait, à l'heure où je n'ai plus d'ennemis, où ceux qui me persécutaient viennent me tordre la main, le poison est en marche, il circule dans les canalisations. Il a peut-être déjà fait des victimes. Il se leva brusquement, regarda les deux hommes et s'écria d'une voix rauque. Non, non, si vous saviez, aussi j'ai trop souffert. Et il s'enfuit en courant. Pauvre type, murmura le gros Nestor, il est fou. Pas étonnant qu'après des émotions pareilles. Ah, il en a vite dur et peu s'en est fallu qu'on ait sa peau. C'est bête tout de même. Et tout ça, c'est la faute de cette crapule de Besombe. Aussi pourquoi l'avons-nous écouté ? Le père Grachu avait raison. Lui seul avait vu clair dans tout cela. Barouillet ne répondit pas. Il prit le garçon bouché par le bras et l'entraîna dehors.
Les vendeurs de journaux parcouraient les rues, s'arrêtaient, distribuaient quelques feuilles encore humides et repartaient en hurlant. La maladie mystérieuse, détail complet, les décès de la journée. Il arrive qu'une vengeance porte parfois à faux et qu'elle atteigne des innocents. C'est ce qui était arrivé. Procas avait voulu se venger de ceux qui l'avaient rendu si malheureux, et la fatalité qu'il avait toujours poursuivie semblait s'attacher à lui. Son bacille faisait maintenant des victimes. Les hôpitaux se remplissaient de malades, mais ce n'était point dans le quartier de Montrouge qu'avait éclaté la terrible épidémie. Procas était persuadé, comme beaucoup de Parisiens, que le réservoir de Montsouris distribue l'eau de la Vanne et du Loing aux habitants du 14e, et c'était ceux du centre qu'il avait atteint. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième avaient reçu l'eau empoisonnée, et l'on comptait déjà de nombreux cas d'intoxication. Aux terrasses des cafés, dans les restaurants, dans les maisons, des hommes, des femmes, des enfants tombaient en tournoyant comme pris de vertige. Les ambulances urbaines passaient et repassaient sous l'œil terrifié de la population. La maladie commençait brusquement par un frisson violent et des vomissements. La température s'élevait très vite et atteignait en 2 ou 3 heures 41 et même 42 degrés. Le pouls montait jusqu'à 150 pulsations à la minute. Les phénomènes nerveux étaient aussi très accentués. Beaucoup de malades étaient pris de convulsions, la peau se couvrait d'une sueur visqueuse. Sur le visage et sur les membres apparaissaient des bulles remplies d'un liquide trouble. Et les gens, qui avaient jusqu'alors échappé au fléau, attendaient leur tour, angoissés, tremblants. Les habitants de l'antique Pompéi, en voyant descendre la lave qui allait les engloutir, ne durent pas être plus effrayés que le furent les Parisiens en ces heures tragiques. Procas errait maintenant par les rues, affolé. La visite du gros Nestor et de Barouillet l'avait bouleversé. Le remords lui broyait le cœur. Pouvait-il laisser mourir des gens qui avaient cessé d'être des ennemis, qui avaient reconnu leur tort à son égard et ne demandaient qu'à se faire pardonner? Il allait tout dire, tout révéler au commissaire, faire arrêter les eaux dans les canalisations. Peut-être en était-il temps encore. Oui, mais une fois qu'il aurait avoué son crime, il fallait qu'il disparût. Sa résolution fut vite prise. Il allait retourner chez lui et prendre sur la petite étagère la fiole de cyanure de potassium qu'il avait eu souvent idée de porter à ses lèvres. Il confesserait son crime et en finirait aussitôt avec la vie. Les cris des camelots avaient soudain attiré son attention. Un tremblement le prit. Il acheta un journal, lu à la lueur d'un réverbère, et sentit ses jambes se dérober sous lui. Ainsi voilà à quoi il avait abouti, à tuer des innocents, des gens qu'il n'avait jamais vus, qu'il ignorait. Un long sanglot monta à ses lèvres. Il voulut courir jusqu'à son laboratoire, mais cette fois la secousse avait été trop forte pour cet homme dont la vie ne tenait plus qu'à un fil. Une crise d'étouffement le prit, son cœur cessa brusquement de battre, et il s'abattit comme une masse foudroyée. Cependant, les médecins avaient enfin reconnu que c'était l'eau qui portait la mort dans Paris, et l'épidémie avait été enrayée. On ignora toujours qu'un homme, pour se venger, avait empoisonné le réservoir de Montsouris, et l'on discuta longtemps encore sur les causes de la contagion. Procas, ramassé sur la voie publique, fut transporté passage Tenaille, et le surlendemain, tout Montrouge suivait le pauvre corbillard qui l'emmenait vers sa dernière demeure. L'assassin était devenu une victime, et la foule, qui ne savait pas, jeta des fleurs sur sa tombe. La pitié s'était éveillée trop tard. Fin.